MCI TV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de « Bonjour chez vous ». C'est vendredi, j'espère que votre semaine s'est bien passée. En tout cas, notre semaine, elle s'est bien passée. Ma semaine s'est bien passée, je vais parler pour moi. Parce que j'ai été en compagnie de belles personnes comme vous deux.
Oh, merci.
Merci.
Vous allez bien aujourd'hui?
Motivée.
Elle a eu un regain d'énergie.
Voilà. Ça va bien?
Ça va maintenant. Très bien.
Ok, super. Et toi, Annabelle, ça va
bien? Oui, très bien. Très jolie, Nadine. Un cadeau de ton mari?
Non. Je suis la seule coupable de cette chemise.
Ton passé ne dicte pas ton futur.
Oh. T'inquiète pas. Amen. Vraiment, on est en train de parler aujourd'hui d'un sujet très important. Ton passé ne doit pas dicter ton avenir. Et si vous avez suivi les émissions de cette semaine, en tout cas si vous n'avez pas suivi, je vous recommande fortement d'aller sur le replay sur emcitv.com et revoir les émissions de la semaine de Bonjour chez vous et d'autres émissions également. Mais spécialement cette semaine, on a fait une émission sur l'épreuve, le fait que vous devez traverser l'épreuve que vous vivez. Et pour certains d'entre vous, votre passé vous suit encore. Alors que vous voulez rebâtir votre vie, vous avez encore les souvenirs, vous avez encore les échecs passés qui vous suivent. Mais aujourd'hui, on veut déclarer sur votre vie que ton passé ne doit pas dicter ton avenir. Le Seigneur a une page blanche. Il a une nouvelle histoire qu'il veut raconter dans ta vie. Et en deuxième partie d'émission, nous aurons le témoignage justement d'Aline, aussi connue sous le nom de Lady Lesté, parce qu'elle a eu une grande carrière comme rappeuse. Et elle va venir parler de son histoire, de comment elle a vécu de l'inceste, elle a vécu la mort de son frère, elle a vécu un ACV, mais elle a rencontré le Seigneur et elle est debout par la grâce de Dieu. Nous allons découvrir ce témoignage en deuxième partie. Mais pour commencer, nous allons y aller avec Omer dans la pensée du jour.
Vous savez, parfois, on aimerait que notre vie, en fait, il y ait un bouton reset. Reset, c'est le bouton dont on peut se servir pour juste tout effacer et puis recommencer. On aimerait que notre vie soit comme les fameux jeux vidéo auxquels nos enfants se prêtent, dans lesquels on a 15 vies et la vie suivante n'a rien à voir avec la précédente. Malheureusement, on vit dans la réalité. Et dans la réalité, c'est que souvent, notre passé va nous accompagner. Et notre passé, en fait, il nous accompagne, mais il peut avoir aucune influence sur notre avenir. C'est-à-dire qu'il peut avoir une telle transformation que Dieu produit dans notre vie, des telles circonstances que Dieu met dans notre vie, en fait, que notre passé devient un outil, en fait, maintenant de propulsion vers notre avenir. Et j'aimerais te dire que Dieu veut faire cela de toi. Il y a un personnage dans la Bible dont on parle très peu, son nom c'était Jephté. Juges chapitre 11, le verset 1, nous dit que Jephté était de la tribu de Galaad, ok, de la tribu de Galaad, et c'était le fils d'un prostitué et quand son d'une prostituée et quand son père est décédé, eh bien ses frères l'ont chassé et Jephté est parti, eh bien il est devenu chef de bande. Et bien maintenant je voudrais t'inviter un moment à regarder les quatre points de sa biographie. Premièrement, il est le fils d'une prostituée, il est orphelin, son père est décédé. Ses frères l'ont chassé parce qu'ils ont dit que tu vas jamais hériter avec nous. Et puis, évidemment, il s'en va être chef de bande. Chef de bande, ça ne veut pas dire qu'il était chef d'une armée, il était chef de voleur. Donc, il n'a rien qui augure que cet homme aura un avenir. Et peut-être que tu regardes ta vie, peut-être que tu es à la rue, tu es un sans-abri, peut-être que tu es là, tu n'as pas à manger et que vraiment, tu as en fait tout qui joue contre toi. J'aimerais te dire que quand tout joue contre toi, Dieu peut rentrer dans l'équation de ta vie et tourner complètement ta vie et te donner un avenir. Ne regarde pas ton passé pour prophétiser sur ton avenir, mais regarde plutôt ce que la Bible dit. Qu'est-ce que la Bible dit? Du fumier, il relève le pauvre et l'indigent et le fait asseoir avec le grand. La Bible dit qu'il change le désert en étang d'eau. Dieu est le Dieu qui transforme l'avenir des gens. Lorsqu'on regarde l'histoire, même de la chrétienté, la plupart des grands hommes que Dieu a utilisés, c'est des hommes qui venaient d'un passé obscur. C'est des hommes qui ne venaient pas des familles excellentes. C'est des hommes vers qui on ne pouvait pas regarder pour espérer quelque chose de grand. En d'autres termes, la plupart d'entre eux étaient des Jephté. Le père était parfois alcoolique, la mère parfois, voilà, avait juste un travail de base et eux avaient très peu d'éducation. Mais comme Jephté, Dieu les a pris. J'aimerais te dire aujourd'hui que si tu es né d'une femme, d'une union illégitime, Dieu peut encore changer ton histoire et te donner un avenir. Si aujourd'hui tu es orphelin, tu n'as personne, sache que Dieu est le père des veuves et des orphelins. Si aujourd'hui tu as été rejeté par ta famille, Dieu récupère ce qui avait été rejeté et il fait de toi une référence dans ta famille. Aujourd'hui, reçois-le dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, peut-être que tu fais un travail, peut-être que tu voles même, peut-être que tu n'as pas encore la vie, voilà, sur laquelle il y a eu tellement de prophéties. J'aimerais te dire ceci, Dieu peut corriger la trajectoire de ta vie. Alors, ne laisse pas ton passé déterminer ton avenir, mais regarde à Dieu, car il peut prendre ce que les hommes regardent comme rien, prendre le chaos, retourner le chaos, et on a la terre merveilleuse. C'est ce même Dieu qui veut travailler pour toi aujourd'hui.
Amen, amen. Merci beaucoup, Omer, pour cette pensée encourageante. Et tu parles de Jephté. Et Jephté a dit, il a fait cette prière, il a crié à Dieu, il a dit, Seigneur, étends mes limites, étends mes limites. Et je crois que pour beaucoup d'entre vous, alors que votre passé, parce que des fois on vit certaines choses, on essuie des échecs où on vient peut-être même c'est même pas notre faute, hein, c'était pas sa faute, il est juste né dans un contexte qui était compliqué. Des fois on est né dans un contexte qui était tout simplement compliqué. Et c'est comme tout ça, ça devient des obstacles comme ça qui sont tellement accumulés sur notre chemin qu'on a l'impression que notre passé en fait, il se remet à jour. Chaque matin, je revis mon passé. Et mon passé est comme d'actualité. On a du mal à se séparer de ce passé pour voir un certain avenir. Mais vraiment, ma prière et notre prière à nous, c'est de vous encourager à dire, Seigneur, étends mes limites. Mon passé reste derrière parce que je sais que maintenant, je suis avec toi et je sais que toi, tu es celui qui donne un avenir. Et c'est vrai que Dieu donne un avenir. Ce n'est pas un discours. Ce n'est pas, des fois, on entend des mots, on a l'impression que les prédicateurs ils disent toujours les mêmes choses. Puis ça a l'air comme si on dit ça pour que les gens soient motivés. Mais c'est la vérité. C'est la vérité parce que le passé va toujours essayer de nous dire que ben, ça s'est passé hier, ça se passera encore aujourd'hui. Mais on veut vous dire que non, Dieu donne un avenir, en fait.
Et c'est pour ça que la Bible nous enseigne que nous sommes nés de nouveau. C'est une nouvelle naissance. Et la naissance, c'est un départ, c'est un nouveau départ dans une vie. Et tu as raison, souvent, les prédicateurs le disent, on l'entend et ça devient tellement commun qu'en fait, on en perd la puissance. Ouais. Mais une nouvelle naissance, ça veut dire, mais c'est une nouvelle vie qui commence. Toute ma vie ancienne est passée. J'ai l'opportunité de repartir à zéro dans une nouvelle vie avec le Seigneur qui m'a transformée et c'est sa façon de faire, c'est ce qu'il fait, à merveille, c'est qu'il prend une vie pour la transformer. Et c'est pas parce qu'on le mérite, c'est juste c'est une nouvelle naissance. Comme Omer, tu disais, dans les jeux vidéo, on peut avoir plusieurs vies, etc. Eh bien, gloire à Dieu, grâce à la nouvelle naissance, on peut au moins en avoir deux. On peut au moins en avoir deux, mais c'est ta nouvelle vie, c'est la chance de ta vie de pouvoir la saisir et de se dire, je ne suis pas obligée de marcher dans les chemins anciens, je ne suis pas obligée de reproduire les choses, je ne suis plus obligée de vivre selon mon ancienne nature, mes anciens désirs, mes anciennes passions. Aujourd'hui, j'ai le Saint-Esprit en moi qui peut me permettre de résister au péché, de résister aux tentations, de faire le bien, d'aimer, de marcher dans la maîtrise de moi-même et de faire des plus grandes choses que Jésus a fait. Amen.
Ce que j'aime de l'histoire de Jephté, c'est que souvent on s'imagine que pour que Dieu transforme notre vie, on doit changer de pays, on doit changer de ville, on doit fuir loin. Mais Dieu ne va pas faire ça avec Jephté. Il va garder Jephté là. C'est à l'endroit où il a même été rejeté que Dieu dit, tu vois cet endroit, ça sera le tremplin à partir duquel je veux pouvoir t'élever. Et j'aimerais parler à des gens qui aujourd'hui, peut-être, tu veux fuir. Tu vois, parfois, tu veux fuir, tu n'as pas d'argent. Tu veux te cacher, il n'y a pas de cachette. Mais j'aimerais te dire que Dieu peut juste à l'endroit où tu es là, créer des circonstances pour que tu deviennes nécessaire. Ne nourris pas l'amertume, ne nourris pas la haine envers ceux qui ont fait, créer les circonstances dans lesquelles tu vis. Et souvent, ces gens qui l'ont fait par ignorance, ils pensaient peut-être bien faire. Les frères de Jephté, quand ils l'ont chassé, c'était la meilleure des choses à faire. Après tout, c'est pas peut-être leur frère directement, etc. Mais ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est que Dieu n'a pas peur du contexte dans lequel tu es. Dieu n'a pas peur du contexte dans lequel tu es. Il peut te faire sortir de ce contexte et te rendre grand, te rendre puissant. Alors aujourd'hui, ne maudis pas tes circonstances, ne maudis pas le pays dans lequel tu es, ne maudis pas peut-être le bidonville dans lequel tu es, mais sache que là où tu es là, tu es important pour Dieu et tu es un acteur essentiel.
Amen. Et c'est Jabez qui avait dit, étant Mélinite. Je savais qu'il y avait un J, ça m'est revenu.
Je savais que le Saint-Esprit allait te réveiller.
Merci, vous ne m'avez même pas corrigé, vous m'avez juste laissé aller, vous êtes gentil. Ouais.
Non, mais la Bible dit que le Saint-Esprit à toi, il t'enseigne.
Il m'enseigne, il m'a rappelé les choses. C'est Jabez, vous n'allez pas chercher dans votre Bible, c'est le lui chronique. qui a dit, étant mes limites. Mais alors qu'on parle de ton passé qui ne doit pas dicter ton avenir, j'ai en mémoire l'apôtre Paul, t'en as parlé cette semaine, Annabelle, de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul lui-même, il dit de lui-même qu'il était persécuteur. Mm-hmm. Il reconnaît que c'était quoi son passé. Il était persécuteur, il a fait tellement de choses blasphémateurs, etc. Il a une longue liste de fautes, il a une longue liste d'erreurs qu'il a commises. Parce qu'on dit ton passé ne dicte pas ton avenir et tu parles de Jephté. Et Jephté était une victime là-dedans. Mais des fois, c'est nous, l'acteur de notre passé, des choses peut-être qu'on a fait qui étaient moins bien. Mais alors qu'on est une nouvelle créature, comme tu dis, Annabelle, alors qu'il y a ce changement, c'est aussi question de nous-mêmes aussi s'approprier vraiment cet avenir, s'approprier cette nouvelle page que Dieu nous donne et de nous-mêmes dire, même quand on fait la paix avec notre passé, ça devient comme un témoignage, ça devient quelque chose qu'on peut raconter et dire, regardez ce que j'ai vécu, regardez qui j'étais, mais j'ai été transformée, j'ai été changée. Donc ce passé, il ne dicte pas mon avenir et il n'est même pas une source de honte pour moi. Au contraire, je bénis le Seigneur qui m'a transformée. Et vraiment, ça nous aide aussi parce que des fois, l'ennemi va utiliser notre passé pour nous rappeler nos fautes, pour nous rappeler nos erreurs, pour nous dire, toi, tu ne peux pas avoir ceci. Tu ne peux pas avoir une famille qui est assise. Regarde ce que tu as fait. Tu ne peux pas avoir un ministère. Regarde ce que tu as fait. Et comme ça, l'ennemi nous rappelle constamment notre passé. Mais lorsque nous-mêmes, on se saisit pleinement de notre présent et de notre avenir qui nous attend devant nous, on est à même de regarder ce passé, de ne pas se sentir condamné, mais au contraire de dire, waouh, merci Seigneur, tu as fait une grande chose dans ma vie.
Ouais, et j'aimerais vous dire que comme Jephté, aspirer à l'excellence malgré ce qui est difficile, aspirer à une vie meilleure. Vous voyez, Jephté a toujours en fait aspiré à une vie meilleure. C'est pour ça que quand vous lisez l'histoire de Jephté, même lorsqu'on est venu, le roi des Ammonites est venu contester l'héritage de Jephté, l'héritage d'Israël. Jephté a dit, je ne te laisserai pas faire. Je connais mon passé, je connais mon présent, je sais où est-ce que Dieu s'en va avec moi. Ce n'est pas parce que vous êtes dans un endroit où peut-être c'est la pauvreté, où les choses sont difficiles pour vous, que vous n'avez pas le droit d'aspirer à une vie meilleure. Jésus dit aux disciples, il dit, levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent déjà pour la moisson. Il y a une moisson pour votre vie. Il y a une récompense à votre fidélité. Ne vous laissez pas enfermer par vos circonstances parce que peut-être que voilà, l'eau n'est pas courante chez vous et que vous êtes là à regarder, mais qu'est-ce que je vais devenir? Dieu sait ce qu'il fait, mais je vous demande à vous d'avoir la foi et de garder les yeux levés qu'il y a un avenir meilleur devant vous.
Amen. Et tu dis ça, ça introduit parfaitement notre témoignage d'aujourd'hui. Laissez mon histoire. Vous savez, depuis quelques temps, on a partagé comme ça quelques témoignages, des témoignages qui ont été tournés en région parisienne. Et il y en a d'autres qui viendront au cours des mois à venir. Et aujourd'hui, on voudrait vous partager le témoignage d'Aline, aussi connue sous le nom de Lady Lesté. Elle est une femme qui a servi, qui a chanté, voilà, qui a servi avec le don qu'elle avait dans le monde. Elle a chanté, vous allez peut-être la reconnaître si vous êtes d'une certaine génération. Mais c'est une femme aussi qui, dans sa vie personnelle, a connu énormément, énormément de défis, énormément. Elle a vécu de l'inceste, son frère a été assassiné, elle a eu elle-même un AVC, mais elle a rencontré le Seigneur. Et pour l'avoir rencontré personnellement, elle, c'est une femme tellement inspirante parce que vraiment, son passé n'a pas dicté son avenir. Si elle, on l'aurait rencontrée il y a des années, lorsqu'elle vivait tout ça, elle n'aurait pas su qu'un jour, lorsque Dieu rentre dans la vie de quelqu'un, ce qu'il peut faire. Donc, ce qu'on est en train de dire, ce n'est pas de la théorie. Aline est l'exemple parfait de oui, Dieu change la vie de quelqu'un, comme de Jephté, comme d'Aline, Dieu le fait. Et alors, je vous laisse découvrir son témoignage dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et nous nous retrouvons pour notre rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, nous recevons Aline. Bonjour Aline.
Bonjour Nadine. Merci beaucoup de m'avoir invitée, vraiment.
C'est le plaisir et le mien. Aline, on te connaît sous le nom de Lady Lesté. Peut-être certaines personnes te reconnaissent parce que tu étais une grande chanteuse rap.
Oui, pendant plus de 20 ans, j'ai fait mon petit trou dans le monde du rap français masculin parce que c'est un monde finalement que masculin.
Oui.
Et de ce parcours aujourd'hui, ben, je suis devenue chrétienne. Oui. Et voilà, je vais partager mon histoire
tu avec toi. Tu partages ton histoire, absolument. Et c'est une histoire bouleversante. Il y a eu beaucoup de rebondissements dans ton histoire. Tu es née en Guadeloupe, arrivée en France à l'âge de 6 ans. Et qu'est-ce qui se passe en fait dans ton enfance?
Ouais, alors, oui, c'est, je suis arrivée en France à 5 ans.
5 ans,
5
d'accord.
Ans. J'étais avec mon petit frère, mes deux petits frères en fait. Moi j'avais 5 ans, mon petit frère avait 4 ans et mon autre petit frère avait 3 ans. Et voilà, on est arrivé en France, hein, vraiment choc culturel parce qu'on n'avait pas l'habitude de voir des immeubles. On est né dans la nature, la mer, la plage, le soleil. Et là on arrive dans du mur, dans du béton en fait. Mm-hmm. Et on a quand même été obligé de s'adapter. Et ce que j'ai remarqué qui a commencé à décrire l'histoire que j'allais passer avec mes parents, c'est que, en fait, mon père, c'était quelqu'un de violent, très violent. Tous les week-ends, il buvait. Et quand il rentrait à la maison, ben, c'était l'enfer, en fait. Il rabaissait ma mère, il frappait ma mère, pour un rien. Et nous-mêmes aussi, on a été victimes de cette violence, en fait. Et pendant des années, on a vécu dans ce huis clos où on n'avait pas le droit de dire quoi que ce soit. On était sous-estimés. On recevait jamais l'affection qu'on aurait aimé avoir de chacun des parents. Hein. Mm-hmm. C'est pas juste mon père. Et voilà, c'est le début. C'est ça mon enfance entre guillemets. C'est vraiment dans cette ambiance de violence, de peur, de colère aussi et d'insécurité. Oui. J'ai grandi comme ça en fait. Oui.
Et dans cet environnement-là, dans cette enfance-là, tu vis cette première épreuve qui va faire partie aussi de ton témoignage.
Oui.
C'est cette épreuve, en fait, par rapport à ton papa.
Oui, c'est-à-dire qu'à l'âge de 16 ans, hein, j'étais devenue une grande, une femme. C'est vrai que mon père, il m'emmenait tout le temps, quand il avait envie d'aller boire, il voulait emmener un de ses enfants. Et comme j'étais l'aînée, je me suis dit, je ne peux pas laisser mon petit frère aller avec mon père. Je levais la main, je disais, je vais venir avec toi. Et donc, j'avais pris l'habitude de partir avec mon père le soir, tard la nuit, et aller chercher de l'alcool là où vous voulez m'emmener. Et je remercie le Seigneur aujourd'hui parce que je suis en vie. Parce que
il conduisait sous, des fois.
Oui, il était sous, il conduisait. Des fois, il était ivre-mort. Et c'est moi qui le dirigeais par rapport au chemin qu'il devait prendre. Et un soir, donc à 16 ans, j'ai eu mes règles. Hein, je suis devenue une femme. Mm-hmm. Et ma mère l'a mis au courant. Et puis, je pense que ça a fait un déclic dans sa tête. Je ne sais pas. Et un soir, elle me dit, bon, viens, on va se promener. Donc, moi, j'avais l'habitude de partir avec lui et de partir chercher de l'alcool et de revenir sain et sauf. Et ce jour-là, en fait, on n'est pas parti chercher de l'alcool. En fait, il m'a emmené dans un centre commercial. Et c'est là qu'il a fait l'acte qui a fait que ce jour-là, j'ai perdu mon père, en fait.
Ouais.
Il m'a violée.
Ouais.
Il m'a violée sans remords. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais perdu mon père. Et déjà, cette colère que j'avais emmagasinée depuis l'enfance, parce que toute cette violence, on la subissait, en fait. Mm-hmm. Et c'est vrai que quand je rentrais à l'école, j'étais joyeuse, rigolote et tout. Et puis, dès que je rentrais chez moi, je portais ce masque, parce que c'était des barrières que j'étais obligée de me mettre si je voulais survivre, en fait.
Oui.
Et quand il a fait cet acte odieux, c'est là que je me suis dit qu'en fait, j'ai perdu mon père, en fait. Et cette colère et cette haine, elle était là. Ça montait dans mon cœur, mais je n'avais pas la possibilité d'en parler à personne. Et tu sais, c'est comme dans les animés. Hein. Un côté, il y a le côté bien qui dit « mais dis-le ». Et l'autre côté qui dit « mais non, pourquoi ? Ça sert à quoi ? Tu n'as rien dit au début. Qui va te croire, en fait ?»
mm-hmm.
Et pendant un an, j'ai subi ces viols, en fait. Et j'ai eu la force, un jour, au bout d'un an, d'aller le dénoncer à l'école et tout le processus judiciaire a commencé.
Ouais, le processus judiciaire a commencé. Et là, on avance dans ton histoire parce qu'il y a tellement, tellement de choses à dire. Mais là, il y a une autre épreuve encore qui arrive au niveau de ton frère.
Ouais. Donc, de ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser au rap. J'ai commencé d'abord à m'intéresser à la danse.
Oui.
Et puis, la danse m'a emmenée au rap.
Mm-hmm.
Et j'ai commencé à rapper. Et je me sentais bien dans ce milieu-là parce que c'était un milieu, bien sûr, d'hommes, mais je me sentais à l'aise.
Oui.
Mais en même temps, c'est normal, puisque dans le rap, il y avait beaucoup de violence, Et j'ai toujours connu la violence
mm-hmm.
chez moi, dans ma famille, etc. Et du coup, j'étais, entre guillemets, à la maison.
Mm-hmm.
Et j'apprends un jour, je sortais d'une séance de studio tard le soir. Et puis, je me suis réveillée et ma mère m'appelle. À l'époque, j'étais avec mon ancien mari. Mm-hmm. Et elle me dit au téléphone, Rudy, il est décédé. Wow. Et là, Nadine, ah, la douleur que j'ai ressentie à ce moment-là. Quand mon père m'a violée, je n'ai pas pleuré. Toutes les fois où on nous frappait, on pleurait, mais à la fin, ça nous faisait plus mal. Là, j'ai pleuré. Toutes les larmes de mon corps, tout ce que je n'avais pas pu mm-hmm. pleurer pendant, mm-hmm. pendant le... C'était horrible, en fait. J'ai perdu mon... C'est comme si on était jumeaux. On passait du temps ensemble. C'était mon petit frère, quoi. Même si on n'arrivait pas à se dire « je t'aime mm-hmm. », on ne savait pas comment dire ça dans notre famille, mais on s'aimait, ça se voyait dans nos actions. Mm-hmm. Et cette épreuve, ça m'a plus détruite, parce que j'étais déjà détruite à l'intérieur, mais je voulais plus être la victime de qui que ce soit, donc je ne pouvais pas me laisser aller. Mm-hmm. Voilà, tu vois.
Et ça t'a assommée. Et là est-ce que c'est à quel moment est-ce que tu vas rencontrer le Seigneur? Parce que tu as réussi à rester debout.
Mm-hmm. Donc, après l'épreuve de la mort de mon frère, je continue. Mon but, c'est de montrer aux gens que non seulement je ne suis plus une victime, mais que je peux être aussi bonne que mes pères rappeurs, c'est-à-dire les hommes de l'époque. Parce mm-hmm. que le milieu du rap, à mon époque, c'était vraiment un milieu d'hommes. Si mm-hmm. tu ne savais pas montrer qui tu étais, ça ne servait à rien de rapper, en fait. Mm-hmm. Et j'ai continué. J'ai mis de côté la mort de mon petit frère. J'ai mis de côté le fait que j'avais perdu quelqu'un de cher. Oui. Et d'ailleurs, j'ai écrit une chanson qui s'appelle « Et si mm-hmm. », qui m'a fait connaître du grand public. Mm-hmm. Et je continuais ma route, parce que de toute façon, si je m'arrêtais, je ne pourrais plus me lever, en fait.
Ouais.
Et à ce moment-là, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Cette colère et cette haine que mon père m'avait infligée, elle était là dans mon cœur. Oui. Il y avait tellement de sentiments que je n'arrivais pas à gérer. Et évidemment, il m'est arrivé quelque chose. J'ai eu un accident cérébral
okay.
à l'âge de 30 ans.
À 30 ans, tu fais un AVC.
Un accident cérébral. J'avais déjà ma fille et j'avais laissé tomber Dieu parce que je m'étais dit, quand je t'appelais, tu n'étais pas là. Mm-hmm. Quand mon frère est décédé, pourquoi tu n'as pas pu empêcher mm-hmm. ça? Et donc, mon père m'a violée, pourquoi tu n'as pas mm-hmm. Donc pour moi, Dieu, lui, il est à gauche, moi je vais à droite, chacun fait sa vie.
Okay.
Mais le jour où j'ai eu cet accident cérébral et je me suis réveillée, dans mon cœur, j'ai dit merci Seigneur, mm-hmm. alors que je faisais un peu de catéchisme quand j'étais petite, mais je n'avais pas cette relation.
Voilà.
Et j'ai ouvert les yeux, mais je ne me souvenais plus de rien. J'étais bloquée du côté droit de mon corps, le visage déformé. Je ne reconnaissais plus ma fille, je ne reconnaissais plus ma famille. Mais par la grâce de Dieu, je m'en suis sortie. Okay. Au bout de 2 ans, j'ai écrit un autre album. Mm-hmm. Je me suis mariée avec l'homme avec qui j'ai des enfants mm-hmm. aujourd'hui, mon ex-mari. Mm-hmm. C'était en 2006. Mm-hmm. Et je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant. Je me suis dit, bon, là je vais y arriver. Cette famille, je l'ai méritée. On va marcher ensemble, on va réussir. Mais en fait, la colère, la haine, tout ce que j'avais emmagasiné pendant mon enfance, c'était encore là, en fait. Ouais. Je devais trouver un moyen de m'en débarrasser. Et finalement, je n'ai pas réussi à rendre heureux mon mari. Mm-hmm. Et il a demandé le divorce mm-hmm. en 2009. Mm-hmm. Et c'est là que je me suis retrouvée seule. Et là, mon monde s'est effondré. Ouais. Je suis partie dans une dépression. Je me réveillais juste pour mes enfants, en fait. Et ma petite sœur, qui s'était déjà convertie depuis plusieurs années, elle m'a invitée à une réunion. Elle m'a dit, viens, tu vas voir, c'est trop marrant. C'est pas comme à l'église catholique. Les gens, ils dansent, ils chantent. Moi, j'étais là. Ah ouais? Il veut faire quoi pour moi, Dieu? Ma tante qui était là, elle m'a dit, mais viens, il y a un truc vraiment spécial qui se passe là-bas. Il mm-hmm. y a des gens qui tombent. Quoi? Comment ça, ils tombent? Ils tombent de quoi? La curiosité et la musique.
Oui.
Dieu m'a attirée à lui. Oui. Je suis allée dans cette réunion. Je m'en rappelle, c'était en fin 2009. Et je suis arrivée là-bas, ça claquait des mains, il y avait des témoignages, des gens qui disaient, oui, j'étais en dépression, Dieu m'a guérie. Moi, j'étais sceptique. Dieu t'a guérie, hein. Pourquoi il a jamais fait rien pour moi? Parce que je me rappelais de quand mm-hmm. je l'appelais au secours.
Ouais,
voilà.
Des souffrances que tu as vécues.
Et j'écoutais les témoignages, un peu sceptique, mais bon, je me sentais bien quand même. Mm-hmm. Et je me souviens, j'avais menacé ma sœur, parce que ça durait sur un week-end, 3 jours.
Oui.
Vendredi, samedi, dimanche. Je lui ai dit, moi, je viens le vendredi, mais sinon, après-demain, je... Ouais. Ah, je savais pas ce que j'étais en train de dire. Le jour où je suis venue, on chantait, on tapait des mains... Il y avait de la louange. À l'époque, je ne savais pas que c'était de la louange.
Oui.
Il y avait les paroles qui étaient écrites sur un tableau. Et je trouvais ça bien. Je trouvais l'ambiance bien. J'ai toujours aimé la musique. Donc. Oui. Et à un moment donné, j'ai senti comme comme un feu qui montait dans mon ventre, en fait. Mais je ne savais pas ce que c'était. Et puis, à un moment donné, le pasteur, il commence à dire, je ne savais pas que ça s'appelait un pasteur à l'époque, mais à chaque fin de phrase, au nom de Jésus. Et effectivement, les gens sont tombés. J'étais là, oh. J'ai dit à ma soeur, mais où est-ce qu'on est? Elle m'a fait, t'inquiète. Et les gens, ils étaient là, ils frappaient des mains, ils avaient l'air heureux. Et je me suis dit, oui, mais finalement, dans mon cœur, je sentais une paix quand même.
Oui.
Figure-toi, Nadine, ma mère est à côté de moi. Elle tombe comme ça, elle se tape la tête sur le fauteuil. Oui. Et je la regarde comme ça. Et en fait, il y avait un monsieur qui faisait partie de l'organisation qui vient, qui la met bien, qui regarde si tout va bien. Ma mère avait l'air en paix, elle dormait. Ouais. Donc, il l'a laissée par terre et il est reparti. Ouais. Je la regardais comme ça, je suis... Mais où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? Et Claudia, de loin, elle me disait, t'inquiète. et vraiment, j'ai senti comme un feu qui montait dans mon corps comme ça. Et je savais pas où il voulait aller. Donc, j'ouvre la bouche.
Oui.
Et là, Nadine, aïe. Tous les pleurs depuis 5 ans jusqu'à ce jour-là. Là. Mm-hmm. Tout ça s'est commencé à sortir. J'ai pleuré, mais comme jamais j'ai pleuré. Et pendant que je pleurais, dans mon cœur, j'étais heureuse. Mm-hmm. Mon esprit était heureux. Mm-hmm. Et je sentais comme si physiquement, on m'enlevait des fardeaux sur les épaules, des fardeaux. Et pendant que je pleurais, pendant 2 minutes, au moins 5 minutes, je regardais ma sœur, me disais, t'inquiète. Et je continue à pleurer. Et quand j'ai arrêté de pleurer, j'ai essuyé mes larmes et j'ai continué à frapper des mains, à chanter les chansons qui étaient écrites sur le tableau. Ouais. Ma mère, elle se relève, elle clappe des mains, comme si de rien n'était. Et en fait, ce jour-là, j'ai rencontré Christ. Mm-hmm. Ce jour-là, j'ai rencontré Christ et j'ai menacé ma soeur. Je suis venue le vendredi, le samedi, le dimanche, à la fin du culte. Le pasteur a dit, ceux qui ont rencontré Christ, gloire à Dieu, mais trouvez-vous une église.
Oui.
Parce qu'un chrétien seul est un chrétien en danger.
Oui.
Et c'est ce que j'ai fait. Je suis rentrée le dimanche soir. J'ai trouvé une église. Mm-hmm. J'ai tapé. Le dimanche d'après, j'étais dans l'église.
Amen.
Je me suis convertie en 2010. Et aujourd'hui, je marche avec le Seigneur, avec Christ. J'ai pris le temps de le rencontrer, de connaître son amour, de me laisser aussi laver et restaurer, parce que j'ai fait des erreurs, j'ai mm-hmm. fait beaucoup d'erreurs. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, je peux dire que ça en valait le coup. Ce que j'ai fait comme décision, ça en valait vraiment le coup.
Choisir la bonne part.
Amen.
Merci, on pourrait en dire tellement plus, parce qu'il y a beaucoup à dire. Et tu as écrit un livre qui est disponible pour le retrouver en cherchant sur Amazon ou sur Internet. Le livre s'appelle « Dans la lumière ».
Amen.
Le témoignage, un livre témoignage que Aline a écrit. Très inspirant. En tout cas, merci beaucoup, Aline, d'être venue.
Oui, avec plaisir.
Alors, on bénit le Seigneur pour la vie d'Aline, alors que je me rappelle encore comment c'était lorsqu'on était avec elle sur ce plateau. On a pris le temps de prier après. Et vraiment, Seigneur, merci pour ce que tu as fait dans sa vie, comment tu l'as transformée, comment tu l'as rencontrée et pour tout ce que tu as prévu pour elle pour la suite. Aujourd'hui, elle chante pour Dieu. Vous pouvez aller sur YouTube, trouver sa chaîne. Elle rappe, elle chante pour le Seigneur. C'est tellement inspirant. Et pour terminer cette émission, je vous partage notre verset du jour qui se trouve dans Ésaïe 43, le verset 1. La Bible dit « N'aie pas peur car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens ». Tu m'appartiens. Amen. Mm-hmm. Amen. Vous appartenez au Seigneur. Le Seigneur est votre Père céleste, Amen. Votre bon Père, celui qui prend soin de vous, celui qui est le mari des veuves, le Père des orphelins, ceux qui sont rejetés par les hommes, mais non rejetés par Dieu. Alors, je vous encourage ce week-end à prendre du temps dans sa présence, à lui laisser essuyer vos larmes, les larmes de votre passé, mais aussi à lui laisser mettre en vous un rêve pour demain, une pensée pour demain, une pensée d'espérance, parce que le Dieu Tout-Puissant est à vos côtés. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous toute cette semaine. Nous vous souhaitons un excellent week-end et bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.